l'égalité scolaire. Donc pour ce numéro d'Être et Savoir, la culture et l'école, le rôle de la culture dans la réussite scolaire et le rôle de l'école dans la transmission de la culture. C'est une grande histoire problématique. Nous pensons bien sûr à Pierre Bourdieu et malgré le temps passé et les réflexions menées sur le sujet depuis les années 60, l'école semble ne pas sortir des mêmes impasses. Le système scolaire français reproduit encore trop bien, on le sait, et particulièrement fortement les inégalités sociales. Alors pourquoi ne progressons-nous pas sur ce terrain? C'est une question évidemment que nous posons régulièrement dans cette émission et aujourd'hui nous allons nous pencher plus précisément sur la place de la culture dans la réussite scolaire. Et pour mieux comprendre ce qu'il en est, il faut se rapprocher du terrain au plus près, observer les classes, la manière dont se font les apprentissages, comprendre comment se noue la relation au savoir et à la culture, et ce, dès l'école primaire, et aussi peut-être dans les grandes écoles et dans les classes préparatoires. On va tenter d'appréhender ce qui fait obstacle à la transmission. Il semble qu'il y ait beaucoup, beaucoup de non-dits, de malentendus autour de l'idée de culture et d'éducation. Et d'ailleurs, c'est le sujet de votre livre, Julien Netter. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférences en sciences de l'éducation à l'UPEC, c'est l'Université Paris-Est-Créteil. Vous êtes membre d'un laboratoire qui s'appelle le CIRCEFT ESCOL et vous publiez Culture et inégalités à l'école aux presses universitaires de Rennes. C'est un livre très précis. Vous allez nous donner des exemples. Et j'ajoute que vous êtes ancien professeur des écoles.
Oui.
Donc à l'école élémentaire, primaire, comme beaucoup
école
d'entre nous
disent. Élémentaire et maternelle.
Et maternelle, c'est bien ce que veut dire école primaire aujourd'hui. Marie Durubella, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes une grande sociologue de l'éducation, vous êtes professeure à Sciences Po Paris, chercheuse à l'Institut de Recherche sur l'Éducation IREDU et à l'Observatoire Sociologique du Changement. Vous avez récemment publié Sociologie de l'école avec Géraldine Farge et Agnès Van Zanten chez Armand Collin. Et puis un livre, Les inégalités sociales à l'école, et un autre livre, Le mérite contre la justice. Voilà, la méritocratie, c'est aussi ce dont on va parler ce soir. Et ça, c'était aux presses de Sciences Po en 2013, et d'ailleurs bientôt une réédition, je crois. Le sujet reste d'actualité. Il reste d'actualité avec vous, David Guilbeault, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes haut fonctionnaire, vous êtes un produit de la méritocratie, vous êtes ancien élève de l'ENA.
Oui, complètement, oui.
Et vous vous attaquez pourtant à cette question avec un ouvrage, L'illusion méritocratique. Méritocratique, pardon, publié chez Odile Jacob. Et dans Être et Savoir, l'éducation se raconte aussi comme une histoire particulière et intime et donc infiniment touchante. C'est la leçon de choses de Sophie Bobert. Aujourd'hui, Sophie sera avec la dessinatrice Catherine Meurice qui nous racontera ce qu'elle a appris en grandissant à la campagne avec ses parents néo-ruraux avant l'heure. Retrouvez-la en fin d'émission. Et pour commencer, et pour nous donner un repère incontournable, je vous propose d'écouter Pierre Bourdieu, je l'ai déjà cité. L'archive date de 1977. Le sociologue répondait aux questions de Françoise Malétra et des auditeurs de France Culture. À l'époque, on répondait aux questions des auditeurs sur France Culture. On y répond toujours à notre manière. Le dialogue a été diffusé donc pour la première fois en 77, soit 7 ans après la parution du livre dont va parler Pierre Bourdieu, La Reproduction. Et il a été rediffusé l'année dernière dans les Nuits de France Culture. Pierre Bourdieu, écoutez-le, tente de synthétiser l'idée principale de ce livre.
Si on résume la reproduction en une phrase, bon, je le fais, mais ça sent joie, on pourrait dire que c'est un livre prétendant montrer le rôle du système d'enseignement et de la famille dans la transmission du capital culturel ou des inégalités entre les générations. Bon. Autrement dit, en gros, sur la base d'analyses statistiques, d'observations, d'interviews, etc., bon, on peut dire qu'il y a une relation qui n'est pas de hasard entre, en gros, la profession des parents, l'origine sociale des enfants et leur chance de réussite scolaire. Et à travers cela, leur chance de réussite sociale. Bon. Autrement dit, le fils d'ouvrier a des chances infiniment plus faibles d'accéder à l'enseignement supérieur ou même à des filières nobles de l'enseignement secondaire ou même à des filières nobles de la sixième ou même de sortir dans de bonnes conditions de l'enseignement primaire. Il a des chances donc infiniment plus plus faible que le fils de cadre supérieur. Bon, voilà des propositions extrêmement simples. Alors, ces propositions, est-ce qu'elles sont des lois du type celles qu'énonce la physique ? Bon, je dirais que ce sont des lois tendancielles qui sont vraies aussi longtemps que les conditions dans lesquelles est établie l'expérience ne sont pas changées. Bon, et parmi ces conditions, il y a les conditions fixes établies. Il y a une certaine distribution, par exemple, du capital culturel, c'est-à-dire de la culture entre les familles à un certain moment. Il y a un certain fonctionnement du système scolaire. Il y a une certaine formation des professeurs, etc. etc. Autrement dit, aussi longtemps que ces conditions institutionnelles ne sont pas changées. La loi qui fait que, disons, pour vous dire les choses simplement, le capital culturel va au capital culturel. Voilà, le bon résumé de la reproduction, ça serait ça. Que le capital va au capital. Bon, que les riches ressortent riches. Cette loi sera confirmée.
Mais pourquoi et comment ? C'est une question qu'on explore depuis 1970. J'ai donné la date de publication de la reproduction de Bourdieu et Passeron. C'était publié aux éditions de Minuit. En fait, c'est un ouvrage qui fait suite à un autre livre, Les héritiers, 64. Et le titre exact des héritiers, c'était Les héritiers, les étudiants et la culture. C'est dire si cette question est centrale. Et depuis longtemps, et pourtant... le sujet revient encore et toujours sur le tapis. Marie Durubella, sociologue de l'éducation.
Les héritiers ont beaucoup changé. Hein, parce que quand Bourdieu et Passeron étudiaient les héritiers dans les facs de lettres à la Sorbonne dans les années 60, c'était effectivement des purs héritiers d'une certaine manière. Il y en avait très peu. Maintenant, il y a eu une massification. Et ce qui a surpris d'une certaine manière tout le monde, c'est qu'il ne suffisait pas d'ouvrir l'école. Hein, les inégalités allaient se reproduire. Alors, on n'y pense plus tout à fait de la même manière. Les sociologues, d'abord, même s'ils puisent beaucoup chez Bourdieu et Passeron, sont moins déterministes. On pense moins, personne n'oserait écrire aujourd'hui que c'est le système scolaire qui a pour fonction de reproduire les inégalités. Ça, c'est vraiment ringard hein, de le dire comme ça. Par contre, ce qu'on va explorer beaucoup plus, et on va avoir un exemple avec les travaux de Netter, c'est comment ça se fabrique, ces inégalités. Hein, Bourdieu et Passeron parlaient d'osmose, les parents transmettent par osmose une certaine culture. Ben on voit que c'est pas si simple. On voit aussi qu'il y a des pays où il y a moins d'inégalités. Ça fait réfléchir. Donc on a une approche, on creuse les mêmes idées, mais avec une approche plus fine, parce que la science progresse, y compris la sociologie.
Et la sociologie scolaire en particulier, c'est bien de le rappeler. Donc on a bien dit, c'est un repère, et on s'intéresse plus finement à ce qui peut se passer, et c'est là où votre ouvrage est extrêmement intéressant, Julien Netter, car vous décrivez un malentendu, si j'ai bien compris votre ouvrage, un malentendu entre des élèves qui sont tout jeunes, hein, on a dit, en école élémentaire, et l'idée de ce qu'est la culture et ce malentendu, l'école ne le lève pas.
Oui, alors c'est une idée qu'on trouve déjà, à vrai dire, dans Bourdieu-Passeron 1970. C'est-à-dire que l'école attend des enfants quelque chose qu'elle ne va pas leur donner. Et elle attend en particulier un rapport à la culture et au langage qu'elle n'explique pas. Et donc c'est cette idée-là que j'ai essayé de creuser en essayant de comprendre d'une part qu'est-ce que c'était que cette culture de l'école qui serait en fait un système d'attente, un ensemble d'attentes que certains enfants ne voient pas. Et d'autre part, je regarde une deuxième idée qui est arrivée un peu après dans les années 80 avec la politique des ZEP, qui est qu'il suffirait qu'on donne de la culture aux enfants pour que tout à coup, ça devienne des enfants cultivés.
Et c'est bien sur cette idée qu'on va s'arrêter. Alors les ZEP, c'est l'éducation prioritaire. L'acronyme change. Maintenant, on parle de REP, réseau d'éducation prioritaire. Vous décrivez des sorties au musée et des élèves qui ne comprennent pas, mais pas du tout, l'objectif de la sortie scolaire. Comment c'est possible ?
Ah bah c'est le quotidien. C'est le quotidien, c'est-à-dire qu'il y a une façon de percevoir la culture, il y a une façon de comprendre ce que signifie une sortie au musée, des objets qu'on va rencontrer, qui n'est pas du tout évidente. C'est-à-dire Je parle par exemple dans le livre d'une sortie où des enfants vont au musée voir une série d'animaux fantastiques. On leur parle d'animaux hybrides, mais ils ne comprennent pas bien pourquoi finalement ils devraient regarder ces animaux fantastiques, ni ce qu'ils doivent retirer de la visite. En tous les cas, la plupart des enfants ne le comprennent pas, mais certains enfants parviennent quand même à le comprendre en arrivant à raccrocher tout ça de ce qu'ils font à l'école par ailleurs.
Alors certains le comprennent, ce sont ceux qui sont déjà mieux dotés culturellement au départ, plus généralement, alors pas forcément, mais plutôt, ça vous le décrivez aussi, comment se fait-il, et je reviens à ma question, que ce malentendu ne soit pas levé? Ce qu'on comprend aussi en vous lisant, c'est qu'aujourd'hui, dans beaucoup de sorties culturelles, et c'est important d'être précis, on va confier la classe à, par exemple, un conférencier qui est un intervenant extérieur, et puis derrière, ne pas forcément rescolariser ce contenu, ce qui fait que c'est encore plus abstrait et peut-être plus abstrait aujourd'hui qu'hier pour les élèves.
Oui, mais c'est pour expliquer bien le problème, je crois qu'il faut repartir un peu en amont et expliquer que c'est plus général que ça. C'est-à-dire que cette culture de l'école, cet ensemble d'attentes, est assez mal perçue par certains enfants et très peu explicitée au sein même de l'école. Tout simplement parce que ça peut paraître totalement évident. Je vais vous prendre un exemple qui n'est peut-être pas dans le livre d'ailleurs, mais on va lire des histoires aux enfants à l'école maternelle et donc on va leur demander d'écouter. Mais ce verbe écouter, il peut vouloir dire des choses qui sont très différentes. Qu'est-ce que c'est qu'écouter? Si on demande à des enfants, pour beaucoup d'enfants, ça signifie se taire, être sage, ne pas embêter son voisin, voilà, et on écoute une histoire comme ça. Alors qu'en réalité, il y a bien d'autres choses derrière, l'idée qu'il faille trouver des personnages, qu'il va leur arriver quelque chose, qu'il y a une histoire qui se déroule, voilà. Et face à la culture, on est face au même type de problème, c'est-à-dire comment est-ce que la culture va pouvoir être ensuite mobilisée, va prendre un sens dans l'école, dans la classe, par rapport à tout ce qui a été fait par ailleurs.
Qu'est-ce que ça vous inspire, Marie Durubella, ces inégalités qui se jouent, si on entend bien, dès la maternelle, hein, quand on lit des histoires et qu'on est censé les écouter, seulement les écouter et réfléchir pour en faire quelque chose?
Je pense que ça amène à questionner l'école aussi, bien sûr. Parce que ce que montre bien le livre de Julien Néther, c'est que l'école, elle est structurée par discipline scolaire. Et plus d'ailleurs dans notre pays que d'autres, hein, si on fait des comparaisons internationales. On a des profs très disciplinaires qui essaient de ramener, hein, tous ces thèmes que les élèves vont découvrir hors école à des disciplines. Alors, soit on dit, apprenons aux enseignants à réfléchir sur leur pratique, il faut qu'ils le fassent, mais on peut aussi réfléchir à est-ce que finalement éduquer, c'est le rôle de l'école, hein, c'est pas que de l'instruction, est-ce que éduquer, c'est structuré par discipline? Moi, en lisant le livre, je me disais, mais la culture, est-ce que ça doit forcément se rabattre sur des disciplines, hein? Parce qu'on aurait presque l'impression à vous lire que finalement, c'est bien les disciplines, mais je pense que ça questionne. Moi, ça m'a fait penser, c'est pas du tout, je vais peut-être un peu plus loin que, je diverge peut-être par rapport à votre question. Ça m'a fait penser aux travaux d'Ivan Illich quand il parlait de l'école. On disait finalement l'école, ou l'éducation, le système éducatif, il scolarise tout. C'est-à-dire, on va avoir une éducation à la santé, à la sexualité, à la sécurité routière, etc. Et du coup, il transforme les contenus. Il en fait des contenus scolaires. Mais on pourrait imaginer peut-être une transmission culturelle qui ferait partie de la vocation éducative de l'école, qui serait peut-être pas validée, parce que c'est aussi l'obsession de l'évaluation qui déforme tout ça, et qui ne serait pas structurée par discipline.
Illich qui remet en question totalement, hein, l'institution scolaire dans ses ouvrages. Et pourtant, alors vous dites, est-ce qu'on peut disciplinariser ou pas la culture? Est-ce qu'on peut évaluer? Et pourtant, la culture générale, c'est aussi une discipline scolaire. Alors, pas tout de suite. David Guilbeault, on va vous écouter juste après. Ça vous concerne. On va parler un petit peu des classes préparatoires. J'ai tendu le micro d'Être et Savoir à Florence Bronstein avec Philippe Pépin. Elle a écrit plusieurs ouvrages. Tous deux enseignent la culture générale en classe prépa ou l'ont enseigné. Leurs ouvrages sont publiés au PUF et le dernier en date, quelques grammes de culture générale en plus. Allez, tentative de définition de la culture générale.
La culture générale, ça n'est pas quelque chose qui est unique, mais c'est plusieurs disciplines qui se raccordent entre elles pour former ce qu'on appelle la culture générale, c'est-à-dire les humanités classiques que les jeunes devaient avoir acquis à la sortie de leur adolescence. Et moins on a de culture générale, moins on a de facilité pour relier les choses en elles, entre elles. Et c'est ça l'atout, j'allais dire, de la culture générale, c'est de travailler un peu comme les mailles d'un filet. Et plus vous avez acquis la culture générale, mieux vous comprenez ce qu'il y a autour de vous, mieux vous comprenez les autres, mieux vous vous comprenez aussi. Et à ce moment-là, il est évident que vous pouvez argumenter sur des sujets. Vous ne faites pas preuve d'autoritarisme pour défendre une idée. Alors, ce qu'on pourrait dire surtout, c'est ce que n'est pas la culture générale. Ça n'est pas un plateau standardisé que l'on vous donne dans les avions où tout est déjà pré-cuit, quasiment prédigéré. La culture générale, c'est... ce sont les humanités classiques, c'est-à-dire l'histoire de l'art, la philosophie, la religion, l'esthétique, tout ce qui rentre, si vous voulez, dans ces matières. Maintenant, savoir l'âge de Johnny Hallyday et les quiz, ça n'est pas de la culture générale. Là, c'est du dressage.
D'autant plus que Johnny Hallyday est décédé. Non, mais David Guilbeault, plus sérieusement, sur cette idée de culture générale, on est là dans plus l'univers des classes prépa, on se prépare aux grandes écoles. Et vous, dans votre ouvrage, vous attaquez cette idée d'entre-soi, de culture qui serait partagée par un nombre assez peu important de gens, qui conservent un langage et aussi une culture, une manière d'être, qui ne concerne que, on en est vraiment encore là.
Oui, je crois. Et là, le témoignage sur la culture générale est très intéressant, puisque ce qu'il dit... précisément, c'est que c'est pas quelque chose de standardisé. Donc, c'est extrêmement intéressant. Ça montre bien ce qu'est cette matière, qui est très importante encore dans les concours, notamment administratifs, mais aussi dans les autres, qui est en fait un ensemble d'attendus pas très bien précisés, complètement implicites, qui exige de l'élève qu'il soit capable de faire preuve d'une certaine aisance culturelle, d'une certaine facilité dans le maniement d'un certain nombre de références. Il est évidemment possible de bachoter, comme on dit, c'est-à-dire d'apprendre des références sur le tard et de les accumuler et d'essayer de les recracher lors d'une épreuve de culture générale. Mais en fait, on constate que ceux qui s'en sortent le mieux, c'est ceux qui ont obtenu de leur famille et notamment de leurs parents un certain capital culturel, donc qui se transmet par diverses choses, par la fréquentation des musées, par les livres qu'il y a à la maison. Tout ça, ça leur donne une facilité dans l'expression, dans la réponse aux attentes implicite qu'on leur impose au moment de ces concours par rapport à des élèves qui viennent de milieux moins favorisés qui, eux, vont être condamnés à un apprentissage qu'on qualifiera de scolaire, avec donc le terme finalement dévalorisant de scolaire, de laborieux.
Ça, c'est toujours intéressant de voir que le terme scolaire en France est un terme assez dévalorisant dès qu'on atteint un certain degré dans sa scolarité. C'est un adjectif, donc si on est trop scolaire, on va pas passer les concours, on va pas les réussir comme vous. Mais je l'ai dit, vous êtes énarque, David Guilbeault. Pourquoi aujourd'hui ce livre? Pourquoi vous élevez contre ce système, sachant que vous le dites au début du livre, vous êtes un héritier, mais non pas un héritier économique, mais un héritier au capital culturel fort. Oui,
moi, à titre personnel, c'est comme ça que j'explique ma propre réussite, c'est-à-dire que en l'absence de capital économique, c'est le capital culturel que m'ont transmis mes parents dans la compréhension des codes sociaux, dans la connaissance d'une certaine forme de culture qui a permis de répondre aux attentes de ces épreuves de concours. Et ce que je critique, moi, à travers le livre, c'est le fait qu'on continue à qualifier de méritocratique, donc soi-disant fondé sur les efforts de chacun et avec l'idée du « quand on veut, on peut », un système qui, en fait, reste structuré par ces attentes implicites que décrit très bien Julien Néther et qui exclut de fait les enfants qui n'ont pas les ressources, alors soit primaires dans le milieu familial, soit secondaires par les rencontres qu'ils font au cours de leur parcours ou les aides qu'on peut leur apporter, les ressources qui leur permettent de comprendre ce qui est attendu d'eux et d'y répondre bien.
Et cette idée du « quand on veut, on peut », Marie Durubella, vous dites qu'elle est extraordinairement présente et peut-être de plus en plus présente, malgré ses savoirs. Est-ce que ça veut dire que la sociologie de l'éducation ne sert pas à grand-chose? Et pourquoi serait-elle aussi présente aujourd'hui, d'ailleurs?
Quand on veut, on peut, c'est vraiment l'idéologie fondatrice de nos sociétés. On est censé être égaux, libres, on doit pouvoir exploiter ses talents, ce que font les premiers de cordée, diront certains. Donc voilà, ils ont su exploiter leurs talents, ils ont voulu. On n'arrête pas de dénoncer l'assistanat, ceux qui ne se bougent pas, qui vont pas faire l'effort d'eux, etc. Donc c'est vraiment, c'est ça la méritocratie. C'est puisqu'on est égaux, eh bien, on a tous la liberté, mais l'obligation de se réaliser. Hein. C'est vraiment l'idéologie fondatrice qu'on voit aussi aux États-Unis, hein, le self-made man, hein, parce que le destin n'est plus censé être figé par votre appartenance sociale, hein, c'est ça que signifie l'égalité. Les places sont inégales néanmoins. Eh bien, il faut se bagarrer. Donc ça, c'est vraiment le cœur, y compris de nos politiques, mais de l'idéologie courante qu'on va évidemment essayer de transmettre aux élèves. Hein. C'est travail, et dans l'éducation en général, on dit à nos enfants, travaille et tu seras récompensé. Et ça, c'est la méritocratie.
Et dans cette méritocratie, l'idée de culture est particulièrement, la place de la culture plutôt, est particulièrement forte.
Oui, alors ça c'est assez français quand même, quand j'entends la définition de la culture lettrée, c'est vrai que dans notre pays, on a cette définition, c'est là-dessus que s'appuyaient Bourdieu et Passeron pour dénoncer hein, les inégalités. Mais c'est pas une fatalité, hein. Il y a une étude qui a été faite en Angleterre, on observait que les élèves qui réussissaient le mieux à l'école, c'était pas ceux qui allaient dans les musées, c'est ceux qui regardaient beaucoup la télévision, parce qu'il y a très bons documentaires en Grande-Bretagne, et qu'ils apprenaient énormément de choses, et que ça, c'était rentable scolairement. Donc il faut prendre conscience de l'arbitraire, c'est un terme qu'utilisait beaucoup Bourdieu et Passeron, de l'arbitraire de notre définition de la culture. Je pense qu'il n'y a pas une définition de la culture, hein. C'est comme le mérite, hein. C'est une notion floue, tellement plastique qu'on fait un peu ce qu'on veut avec.
Et c'est pour ça aussi, vous parlez des émissions de télévision, que beaucoup d'étudiants écoutent France Culture, parce que c'est grâce aux médias qu'on peut évidemment se cultiver. On va essayer d'aborder des idées théoriques un peu plus complexes. Julien Netta, il y a une idée très forte hein, dans l'école française, c'est celle de curriculum invisible, cette espèce de programme caché. On a dit, il ne faut pas être trop scolaire, mais pour être moins scolaire, il faut posséder un certain nombre de connaissances, et ce, très tôt dans sa scolarité. Curriculum invisible, pourquoi cette invisibilité et pourquoi est-ce que ça fait longtemps hein, qu'on l'utilise cette notion ? Vous allez un petit peu mieux nous la définir. Et puis, pourquoi est-ce qu'on en est toujours à le dénoncer, ce curriculum invisible ?
Alors, curriculum invisible, ça fait pas si longtemps qu'on utilise cette notion. Avant, c'était plutôt la notion de curriculum caché, mais qui veut dire un peu autre chose. Curriculum invisible, c'est l'idée que je vous donnais tout à l'heure, c'est-à-dire que il y a un certain nombre d'implicites que certains enfants ne perçoivent pas et auxquels ils sont confrontés. Et je crois que c'est moins. Je fais très attention à ne pas utiliser la notion de capital culturel de Bourdieu, parce que c'est moins quelque chose qu'on pourrait se donner. Avec l'idée de capital culturel, il y a l'idée de quelque chose que je peux passer de main en main. Et là, c'est vraiment des façons de penser, c'est-à-dire qu'il y a une acculturation à des façons de penser qui sont propres à l'école. Et donc, ce curriculum que j'appelle curriculum invisible, c'est la culture de l'école, c'est la façon de penser qui est attendue à l'école. Et c'est à ça que tous les enfants doivent se confronter quand ils vont tous les jours à l'école.
Qu'est-ce que ça peut signifier, par exemple, quand on répond à une interrogation écrite ? Il faut faire des plus longues phrases, c'est comprendre qu'il ne suffit pas juste de répondre à la question, qu'il faut développer. Qu'est-ce que alors, ça peut signifier ?
À vrai dire, il y a plein de dimensions de ce curriculum invisible. Je vais vous donner un exemple à nouveau qui a été travaillé par une chercheuse américaine, états-unienne, Shirley Bryce Heath, qui va dans des écoles de quartier très ségrégées aux États-Unis et qui observe les interactions dans les classes et qui voit des enfants qui ne prennent pas du tout la parole. Et elle se retrouve face à un élève qui lui explique que, bah oui, il prend pas la parole parce que la maîtresse pose des questions idiotes. Alors, ah bon, questions idiotes, qu'est-ce que ça signifie ? Bah oui, elle pose des questions, mais elle connaît déjà la réponse. Donc, j'ai pas besoin de lui répondre, je vais pas aller lui parler si elle connaît déjà la réponse. Alors, Shirley Bryce va dans les familles des élèves et se rend compte qu'en effet, dans ces familles, d'abord, on pose moins de questions aux enfants, et quand on leur pose des questions, bah, c'est des questions dont on ne connaît pas la réponse, on veut apprendre quelque chose. Et puis ensuite, de façon un peu perverse quand même, elle va dans les familles des enseignants de ces écoles. Et elle se rend compte que dès la naissance des enfants, les enseignants apprennent à leurs enfants à jouer à ce fameux jeu de questions-réponses. Question étant celle dont pour lesquelles les adultes connaissent déjà les réponses. Par exemple, un enfant qui crie parce que c'est l'heure de son biberon, la mère va lui dire « Alors, t'as faim ?» Elle sait très bien que oui, il a faim. « Oui, tu as faim. » Donc, elle fait, avant même qu'il sache parler, la réponse pour lui. Autrement dit, il y a vraiment une acculturation à des façons de penser qui sont très profondément ancrées en nous et qui nous paraissent d'une évidence totale, parce que on, tous autour de ce plateau, on a fait des études. Voilà. Donc pour nous, maintenant, c'est totalement évident. Mais pour certains enfants, ça ne l'est pas du tout.
On peut dire que ça commence au berceau, effectivement. Pourquoi l'école ne rendrait pas visible ce qui n'est pas visible? Et je sais qu'au laboratoire école dans lequel vous travaillez, c'est une grande question. L'idée d'une école qui serait plus claire, qui serait d'une éducation plus explicite. Pourquoi c'est un savoir-faire qu'on n'a pas beaucoup en France?
Alors, d'abord, y a plusieurs raisons. Il y a, on va dire, des raisons un peu politiques, c'est-à-dire que les réformes de l'éducation sont plutôt conçues comme étant des réformes descendantes et où on ne va pas tellement aider les enseignants à réfléchir à leurs problèmes et aux problèmes qui se posent à leurs élèves. On va plutôt réfléchir des politiques en termes d'organisation de l'école, avec en plus des va-et-vient suivant les gouvernements qui font que tout le monde est un peu lassé de ces politiques. Bon, voilà. Et puis, deuxième raison plus profonde, c'est que c'est très compliqué de faire changer un enfant de façon de penser. D'abord, un enfant, quand il pense d'une certaine façon, il n'a pas envie de penser autrement. Si je vous disais, demain, vous allez entièrement changer de façon de penser, ça ne vous ferait peut-être pas plaisir.
Peut-être, je ne sais pas.
C'est douloureux, toujours intéressant. C'est douloureux de changer de façon de penser. Donc, voilà. Et puis, il y a un grand nombre de dimensions. Je vous ai parlé du langage tout à l'heure. Il y a une façon de percevoir l'activité, une façon de comprendre que ce qu'on attend de nous, c'est à l'école, c'est de mettre un objet d'apprentissage au centre. Et voilà. Donc, il y a vraiment plusieurs dimensions et qui sont liées entre elles. Et c'est pour arriver à faire bouger un peu les enfants, il faut arriver à faire bouger ces différentes dimensions. Et ça, techniquement, d'un point de vue technique, c'est très compliqué. Or, comme les politiques ne sont pas construites pour aider les enseignants à comprendre les problèmes qui se posent à leurs élèves, ben on se retrouve face à des difficultés dans la compétence même du système scolaire à réaliser, à rendre visible cet implicite.
Vous écoutez Être et Savoir, nous sommes en direct sur France Culture, nous parlons de culture justement et d'inégalité scolaire. On parle de non-dit, d'incompréhension entre des familles qui seraient plus éloignées de l'école. C'est comme ça qu'on dit souvent pour décrire les familles de milieu populaire, des familles dont la culture est plus éloignée de l'école. Il y a déjà quelque chose d'assez cruel dans cette manière de définir les choses, Marie Durubella.
Il y a surtout quelque chose d'assez fataliste. Et je me demande si en France, on n'est pas d'une certaine manière, à cause des théories de Bourdieu et Passeron, relativement fataliste par rapport à des pays voisins. Il faut quand même savoir maintenant qu'on le sait avec des enquêtes comparatives, qu'il y a des pays où il y a beaucoup moins d'inégalités de résultats entre les élèves, alors que les inégalités sociales sont aussi importantes. Donc ça existe, on peut, il y a des pays qui n'ont pas d'élèves faibles à 15 ans, ils n'en ont pas. Et nous, on en a plein.
Alors lesquels, faut peut-être le redire.
Il y a bien sûr les pays du Nord. Il y a des pays asiatiques qui ne sont pas forcément comparables aux nôtres directement, parce qu'il y a aussi tout l'environnement idéologique et culturel. Mais dans les pays du Nord, il y a des pays où vraiment le pourcentage d'élèves faibles à 15 ans est moitié moins important que chez nous. Donc moi, je me demande toujours si on n'a pas quand même hérité d'un certain fatalisme et on manque peut-être d'un esprit expérimental qu'on a dans certains pays. Moi, je me rappelle quand on a commencé à évaluer les pratiques pédagogiques dans mon laboratoire il y a 20 ans, on nous disait « Ouais, c'est comme les Américains, vous allez chercher ce qui marche. » Ça paraissait presque méprisable par rapport aux grands problèmes et la complexité de etc., etc. Bon, il faut peut-être aussi balayer devant notre porte et se dire que c'est peut-être aussi la recherche en éducation et l'environnement idéologique global, y compris théorique, dans lequel on baigne, qui est en partie, je dis bien en partie, responsable de cela.
Et l'environnement dans lequel on baigne, l'environnement idéologique, c'est aussi la méritocratie et l'idée qu'une carrière scolaire aboutie, c'est une carrière qui se terminerait par un bac général. Ce n'est pas ce que je pense. Je dis que c'est une idée qui circule très fortement dans la société et dans l'idéal absolu, une classe préparatoire et ce qu'on appelle les grandes écoles. David Guilbeault, qu'est-ce qu'on dit aux élèves des classes préparatoires? Vous les avez fréquentés, aux élèves des grandes écoles, Sciences Po, Léna, vous connaissez bien. Qu'est-ce qu'on leur dit? Quel sentiment on leur donne? Où est-ce qu'on en est aux yeux de soi-même et aux yeux de ses professeurs quand on arrive là? Dites-nous.
Ce qu'on vous dit à l'arrivée à Sciences Po, à l'arrivée à l'ENA, c'est très clair, c'est que vous êtes l'élite de la nation. C'est extrêmement clair. Et ça reflète bien ce que dit Mario Durubella, c'est qu'on a une vision en France qui est structurée alors par deux choses, en fait, qui est notre obsession pour le principe théorique de l'égalité des individus en droit et en même temps une vision qui reste très très élitiste, c'est-à-dire selon laquelle il n'y aurait qu'une seule ambition légitime, c'est d'atteindre ses positions scolaires et donc professionnelles compte tenu du lien extrêmement fort qui existe entre les deux, qui sont les plus valorisées à la fois symboliquement et matériellement. Donc c'est finalement un paradoxe qui est très très français et qui explique peut-être qu'on n'est pas capable de traiter les problèmes qu'a rappelé Marie Durobella, qu'on est un des systèmes avec d'abord les inégalités de performance les plus grandes entre les moins bons élèves et les meilleurs, et par ailleurs avec des inégalités de performance selon l'origine socio-économique les plus fortes, parce qu'on est obsédé par l'idée que tous les enfants naissent égaux, et que donc il n'y aurait pas de problème, et que chacun après peut se battre pour atteindre, devenir lui aussi une partie de l'élite de la nation. Ce qui est complètement contestable, évidemment.
Oui, ce que vous contestez dans votre livre, mais on parlait de non-dit. En fait, ce qui est intéressant, c'est quand on arrive à un certain niveau des carrières scolaires, niveau s'entend, suivant comment on considère tout cela, évidemment, et bien là, on est explicite, on dit vous êtes l'élite de la nation. Là, c'est bon, on peut tout dire.
On le dit parce qu'on est entre soi. Évidemment, ils n'osent pas le dire à l'extérieur. Eux, ils disent non, nous, on est ouvert à tous. Et voilà, nous, l'important, c'est de former des esprits libres. Je crois que c'est le slogan encore de l'Institut d'études politiques de Paris. Ils disent pas du tout qu'ils sont l'élite de la nation, mais en fait, ils se pensent comme tels, ils se voient comme tels, et finalement, ils reproduisent même inconsciemment les principes de distinction sur lesquels se fonde leur propre existence. Donc, c'est des dynamiques qui sont même pas encore conscients, qui sont même pas arrivées à la conscience de beaucoup de ces gens.
Et pourtant, une certaine ouverture sociale. Dans votre ouvrage, David Guilbeault, vous parlez de bilinguisme. Un bilinguisme, donc, entre sa vie normale d'enfant, puis d'adolescent et d'étudiant, et le langage scolaire. C'est comme ça que vous l'avez vécu. C'est quelque chose qui est de l'ordre de l'expérience, mais qui est aussi un peu théorisé chez vous.
Hein. Oui, qui est plutôt de l'ordre de la double distance, c'est-à-dire qu'un enfant, un élève, un étudiant qui va réaliser cette trajectoire de transclasse qu'a bien décrite notamment Chantal Jacquet, un étudiant qui va réaliser cette trajectoire-là, il va très vite se trouver déchiré entre d'un côté le sentiment que peu à peu il s'éloigne de son milieu d'origine, qu'il est en quelque sorte en train de le trahir, et on retrouve ça dans de nombreux témoignages d'étudiants qui suivent ces trajectoires-là, avec le sentiment que finalement il commence à vivre d'une manière différente, à avoir des pratiques culturelles différentes, il sort à des endroits différents. Il a plus énormément de choses à échanger avec ses amis quand il revient chez lui, bon. Et de l'autre côté, la deuxième distance, elle est quand même à l'égard du milieu qui l'accueille, le nouveau milieu social dans lequel il évolue, parce qu'il sent bien qu'il y a une distance culturelle qui demeure quand même dans l'apprentissage des codes, dans l'aisance, dans le rapport à une certaine culture. Vous allez vous retrouver dans des milieux avec des gens qui manient très bien les références de l'opéra, alors que vous, l'opéra, vous n'y comprenez absolument rien, évidemment. Donc voilà, vous sentez que quand même, vous ne faites pas complètement partie de ce milieu-là. Et donc vous êtes en quelque sorte tiraillé entre ces deux obligations d'allégeance auxquelles vous ne pouvez pas répondre complètement de l'un comme de l'autre côté.
Ça pourrait être intéressant d'avoir une double culture, c'est même toujours très intéressant. Mais cette question du bilinguisme, elle est aussi présente chez vous, Julien Netta, mais pas exactement de la même façon. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, ces langues qu'on parle suivant où on est? Donc dès le plus jeune âge, la langue scolaire et puis un autre langage.
Alors, langue scolaire, ce que j'appelle langue scolaire, c'est la culture de l'école. C'est-à-dire que être bilingue, c'est être à la fois dans la culture de l'école et être capable de traduire n'importe quelle culture, n'importe quel autre objet culturel dans la culture de l'école. Par exemple, des enfants qui vont aller au musée et qui vont aller, en revenant dans leur classe, retirer quelque chose de ce qu'ils auront appris au musée parce qu'ils l'ont traduit en termes scolaires, c'est-à-dire en termes disciplinaires. Alors, on peut déplorer le fait que l'école fonctionne avec des disciplines ou pas, mais en tous les cas, de fait, elle fonctionne avec des disciplines. Donc, c'est une forme d'incontournable. Et tout à l'heure, dans l'extrait que vous avez passé sur la culture, il y avait cette idée de réseau sur la culture générale, cette idée de filet, je crois, dans les termes exacts, qui était tissé à partir de connaissances disciplinaires. Eh bien, c'est exactement ça. Voilà. Ce bilinguisme, c'est celui qui va permettre d'aller pêcher avec son filet, qui est fait de connaissances disciplinaires, n'importe quel objet culturel pour le traduire et l'intégrer dans ce filet.
Elle est intéressante, cette question des objets culturels, parce que David Guilbeault, vous avez parlé de l'opéra, mais aujourd'hui, la culture légitime et la culture populaire ont des frontières plus floues et pour le meilleur. On parle d'omnivore culturel. Là, je reprends un terme du sociologue Paul Pasquali. Bernard Lahire a énormément travaillé sur cette question. Finalement, ce qu'on voit, c'est la puissance de ceux qui sont déjà au sommet ou ceux qui possèdent déjà les codes pour absorber toutes les cultures. Comment ça, vous l'expliquez ?
Oui, alors ce côté omnivore culturel, je pense qu'il profite avant tout aux plus favorisés qui d'abord avaient la culture légitime, un peu traditionnelle, ils avaient la possession de cette culture-là. Et maintenant, finalement, ils s'approprient aussi d'autres objets culturels. Donc finalement, ça va prendre la forme d'une petite excentricité sympathique qui enrichit leur profil d'un point de vue culturel. Mais par contre, un élève qui viendrait d'un milieu moins favorisé et qui n'aurait que les références, ces nouvelles références intégrées au corpus de la culture pas légitime, acceptable dans l'espace scolaire, l'élève qui n'aurait que ces références-là, je pense qu'il continuerait à se voir infliger un jugement extrêmement dévalorisateur, d'abord à l'occasion des notes que lui donneront ses professeurs, et puis surtout à l'occasion des concours, si jamais il veut passer des concours, où là, quand même, on sent que le poids de la culture traditionnelle, livresque, à l'ancienne, j'ai envie de dire, reste encore très prégnant.
La culture cultivée, pour reprendre une ancienne formule, Marie-Louise Rubella, sur les aléas de nos représentations culturelles, culture. Et de la culture et comment elle s'est transformée. D'ailleurs, France Culture n'est plus du tout le même France Culture que dans les années 70, par exemple.
Ben là, l'école telle qu'elle fonctionne aujourd'hui et reste, malgré beaucoup d'évolutions, l'héritage, le lycée en est l'exemple emblématique, et l'université aussi d'ailleurs, d'une institution qui accueillait une part minime d'une classe d'âge. Là, l'école s'est ouverte et il serait temps, on commence à le faire, à réfléchir en disant, mais ce jeune, on a maintenant plus de 80% des jeunes au lycée, hein, quel jeune veut-on former ? Alors, il y a eu ce débat, il commence à monter. Par exemple, quand récemment, le ministre de l'Éducation nationale a dit, on va introduire l'oral au niveau du bac. Ça nourrit un débat, à mon avis, très intéressant. Certains disant, ah ben oui, l'oral, il en faut, c'est utile, c'est une dimension de la culture, maintenant, dont tout le monde a besoin. Et d'autres disant, oui, mais attention, l'oral, ça va créer des inégalités, etc. Et là, ça nous remet sur cette discussion sur les inégalités. Bon, à mon avis, c'est pas parce qu'un enseignement est assorti d'inégalités qu'il faut le supprimer, le barrer d'un trait de plume en disant, puisque c'est ça, on n'en fait pas. Parce que moi, on ne fait plus rien, d'ailleurs, à l'école. Hein, parce que les maths aussi sont porteuses d'inégalités.
Et même encore plus.
Mais bien entendu. Donc, mais je pense que c'est une réflexion qui est intéressante. La question qui devrait guider l'école, l'école s'est transformée, elle s'est ouverte, elle s'est massifiée. Quel jeune veut-on faire ? Et là, on hérite d'une situation des années 50-60 qui n'est pas honteuse, mais qui convenait à une fraction assez limitée d'une classe d'âge.
Et le poids de cette culture, car c'est aussi une culture, pèse lourd sur l'école, hein, le système scolaire, Marie Durubella. Mais il y a autre chose. Vous avez parlé de massification. Il y a de plus en plus de jeunes gens qui sont diplômés en France. On peut s'en réjouir. Et de ce fait, les débouchés ne sont pas toujours là. Ce qui fait qu'on va arriver dans la situation, et c'est en conclusion de votre ouvrage « Le mérite contre la justice » où des gens très diplômés et très cultivés vont occuper des emplois relativement peu qualifiés ou peu qualifiés par rapport aux ambitions qu'on peut avoir plus ou moins légitimement par rapport aux diplômes décrochés et particulièrement les diplômés de ce qu'on appelle les humanités. L'histoire, par exemple, on prendra que cet exemple.
Oui, bien sûr, mais là, il faut savoir ce qu'on veut, parce que l'école est devenue aussi une instance à classer pour l'accès à un emploi. On a des relations entre les formations et les emplois qui sont fortes chez nous, elles sont même particulièrement fortes à certains niveaux, mais en même temps, aller à l'école, c'est acquérir une certaine culture. Est-ce qu'on regrette qu'aujourd'hui, 80% d'une classe d'âge accède à ce qu'on enseigne au lycée ? C'est vrai que certains vont devenir ouvriers, employés avec ce bagage-là. À la limite, c'est à eux qu'il faut demander. Regrettent-ils d'avoir été jusque-là ? C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une tension, parce que plus on ouvre l'école, on imagine bien qu'il ne suffit pas de délivrer des diplômes pour créer des débouchés qui vont avec miraculeusement. Mais en même temps, les gens ne perdent pas leur temps. Enfin, du moins, on peut l'espérer. Donc, ils apprennent des choses, même si ce n'est pas validé. Donc, je pense qu'il y a cette tension. Démocratiser, c'est peut-être aller vers une dévalorisation des diplômes, mais c'est aussi démocratiser la culture. Alors, est-ce que ça, on y renonce ?
Est-ce que c'est un discours audible de dire on est là pour apprendre et apprendre, c'est apprendre en soi, ou est-ce que ça va pas, justement, ça ne va pas convenir à la culture de certaines personnes pour qui l'école, ça doit déboucher sur quelque chose d'efficace, type un emploi. Et est-ce que le savoir pour le savoir, c'est pas déjà un code culturel, Julien Néther?
Absolument. Je crois que vous avez tout à fait raison. Apprendre, c'est-à-dire l'idée que allez, on va à l'école, qui est une institution quand même émancipatrice, et qu'on va se transformer par l'école en apprenant des choses, c'est une façon d'aller à l'école. Et ce n'est peut-être pas la façon d'aller à l'école de tous les enfants qui y vont. C'est-à-dire que peut-être que pour certains enfants, c'est plus essayer de passer de classe en classe et d'obtenir un diplôme à la fin. Et peut-être que cela lise moins d'ailleurs ce qu'on attend d'eux en réalité à l'école. Ils risquent d'avoir plus de difficultés dans les classes.
Au sujet de la culture à l'école, je voudrais revenir sur un épisode relativement récent. Bien que ça semble ancien, voilà, c'est les rythmes scolaires. Vincent Peillon a voulu les réformer. Maintenant, on sait que 87%, je crois, des communes sont repassées aux 4 jours d'école. Mais il y avait ce projet d'instituer du temps périscolaire, donc pour faire des activités, pas forcément culturelles, mais aussi à l'intérieur de l'école. Et ça aurait pu être l'occasion de faire le lien entre la culture, les activités culturelles, type musicales, et l'école. Et cette occasion a été, on peut dire, ratée, ne serait-ce que parce que ce projet a fait long feu.
Oui. Alors, je pense que ça a été un échec pour un certain nombre de raisons qui tiennent à l'organisation de l'école, mais aussi, et c'est ce que j'essaye de montrer dans le livre, parce qu'il ne suffit pas d'avoir une politique d'accès à des objets culturels pour faire des enfants cultivés. Et la politique des rythmes scolaires, elle est pensée comme ça, avant tout, en termes d'accès à des activités pour les enfants, mais ça ne suffit pas.
Encore faut-il que cet accès soit réel, puisque on le sait, ces ateliers périscolaires, ils portaient des noms différents, étaient de qualité inégale. C'est du moins ce qui est remonté dans les observations. Qu'est-ce qu'il faut avoir fait en plus du curriculum, du programme normal, David Guilbeault, pour être parfaitement conforme à ce qu'on attend de vous? Est-ce qu'il faut être musicien? Quelle lecture en plus? Moi, j'avais accédé, on en avait parlé dans l'émission, à la liste de lectures proposées pour rentrer au collège Henri IV. La liste est très longue, ouais. Et bon, même à mon âge, j'aime bien lire, hein, vraiment. Voilà, il y avait des ouvrages que j'avais pas lus. Alors, c'est quoi ce curriculum?
Un ensemble d'attendus culturels, de maîtrise de certains codes sociaux, qui est justement très difficile à définir parce qu'il est, en fait, il a été si profondément incorporé par les enfants qui. Donc, s'agissant du capital culturel, ce qu'on disait tout à l'heure, pour moi, c'est davantage une imprégnation qu'une transmission vraiment de main à main. C'est, voilà, l'enfant est imprégné au fil de ses années pendant lesquelles il grandit, imprégné des codes que maîtrisent ses parents et des références culturelles que maîtrisent ses parents. Donc, ça devient évidemment très difficile d'objectiver ce qu'est cette capacité à répondre aux attentes culturelles de l'école. Mais pour en revenir à la culture, ce qu'on disait tout à l'heure, évidemment, on peut se réjouir que 80% d'une classe d'âge ait accès aux connaissances culturelles du lycée et que donc l'école soit un vecteur de transmission de culture. Le problème, c'est qu'après, ces connaissances acquises, finalement, elles sont pas valorisées et quelque part, on aura même pas droit de s'en prévaloir parce qu'après, on n'aura pas eu soit l'accès au concours, au diplôme qui légitime le droit à la parole culturelle, si vous voyez ce que je veux dire.
Les concours, ce sont les concours des grandes écoles. Hein.
Les concours des grandes écoles. Et donc,
j'ai fait un peu de décryptage culturel.
Il y a un problème dans notre approche de l'école qui est que, d'un côté, oui, elle transmet de la culture, mais de l'autre, finalement, tout son fonctionnement aujourd'hui tend à la réduire à un outil de placement sur le marché du travail qui, du coup, dévalorise structurellement ces connaissances profondément culturelles qui pourtant pourraient être émancipatrices pour les enfants. Mais puisqu'on les valorise pas comme ça et qu'on reconnaît pas aux jeunes le droit aussi de s'approprier ces connaissances, même si après ils choisissent d'aller vers une voie professionnelle différente de celle de l'élite qu'on valorise le plus, forcément ça tombe un peu à l'eau.
Marie Durubella, la France continue de se débattre avec l'idée de définir ce que c'est à la fois la culture scolaire, le mérite, des débats dont il semble très difficile de sortir. Nous, on propose des explications, hein, modestement, dans Être et Savoir, et on peut lire évidemment vos ouvrages, mais est-ce qu'il n'y a pas un problème avec la définition même du terme mérite? Parce que finalement, le mérite à la française et le mérite à l'anglo-saxonne, par exemple, c'est pas la même chose.
Oui, bien sûr. Alors là, on va pas rentrer dans les problèmes de définition, parce qu'à la limite, j'ai une citation, je la connais pas par cœur, je crois qu'elle est d'Amartya Sen, qui disait « Le mérite, c'est ce qui définit ce qu'on attend d'une société bonne. » On va reconnaître que quelqu'un a du mérite parce qu'il fait quelque chose qu'on valorise, évidemment. Hein, alors qu'on pourrait très bien dire qu'après tout, un cambrioleur hardi fait preuve de beaucoup de mérite, parce que c'est quand même pas facile de faire sauter une banque. Donc le mérite, c'est ce qu'on juge bon. Donc le problème, c'est que cette définition, justement, elle n'est pas explicite. Elle n'est pas explicite, mais on a peut-être intérêt à la laisser dans le flou. Parce que le mérite, c'est quoi? On sent bien que les élèves héritent de quelque chose, donc ils n'ont rien fait. Hein, ils héritent de certaines choses.
Ça pourrait être l'effort.
Oui, alors voilà, donc c'est ça théoriquement. Théoriquement, il y a Michael Young, qui est un chercheur britannique, disait « c'est le QI et l'effort ». Alors nous, on n'utilise pas trop ces références au QI, qui sont très discutables. On dira « ben oui, il est plus ou moins capable de faire des choses, mais il va les mobiliser ». Mais on sait que c'est très dur de faire la part de ça. Aller dire d'un athlète, par exemple, on dira « ah, il a des capacités ». Ben oui, mais s'il n'a pas travaillé, ses capacités ne servent à rien. Donc c'est pratiquement indissociable, cette histoire de « il y a des capacités et il y a ce qu'on en fait ». Mais il faut bien qu'on ait un critère. Le problème, c'est qu'on a pas de critères pour répartir des places inégales. Et plus les places sont inégales, plus ça va être tendu, cette définition du mérite. Parce qu'il y en a qui vont gagner rien et d'autres qui vont gagner 1000 fois plus. On sait bien que ceux qui gagnent 1000 fois plus, ils n'ont pas 1000 fois plus de mérite. Donc il faut qu'il y ait un peu de flou là-dedans, qu'on se dise « Ah oui, les premiers de cordée, ils ont quand même mérité ». Mais c'est une idéologie qui est pratique, qui est confortable, sinon ça explose.
C'est toute la force du principe du mérite comme principe de classement des sociétés, c'est que fondamentalement c'est un principe conservateur parce qu'il est défini par les personnes en place, donc selon les critères que ces personnes-là valorisent. Mais par contre, lorsqu'on le présente de manière rhétorique, ça paraît inattaquable. Bah oui, c'est les efforts qui comptent et c'est important de valoriser les efforts de quelqu'un. Donc finalement, on ne s'interroge pas sur ce principe de légitimation qui, en réalité, masque encore des phénomènes d'héritage qui sont tout à fait importants.
Mais si, justement, on s'interroge. Aujourd'hui, David Guilbeault. Julien Néther, il faut s'interroger sur tout ce que cela produit. Finalement, cette place de la culture, culture assez exclusive, culture un peu opaque, hein, on l'a dit, on ne va pas le redire, ça produit aussi chez certains élèves, dans leur scolarité, l'idée que ce n'est pas pour eux et que si l'école n'est pas pour eux, il faut faire en sorte, en quelque sorte, rupture avec l'idée de culture générale et pas seulement de culture scolaire. C'est aussi une rupture sociale.
Alors, vous me permettez justement de rebondir sur les derniers mots de Marie Durubella, qui était le mérite, c'est quelque chose de pratique et si on ne l'a pas, ça explose. Et on est peut-être actuellement dans une période historique où le mérite n'est plus une idéologie qui est si reconnue que ça, et où on va vers quelque chose de très, très, très tendu.
Et je reviens à ma question. Vous avez rebondi sur des gens qui se construisent finalement contre l'école. Alors, vous parlez de société qui explose. C'est-à-dire que c'est le sentiment d'être exclu qui se construit dans la scolarité.
Ça se construit dès le plus jeune âge. C'est-à-dire qu'on voit des enfants qui sont mis à côté de l'école dès le plus jeune âge, qui font de gros efforts pour essayer de comprendre ce qu'on leur demande, mais qui ne comprennent pas, qui se heurtent à ces évaluations incessantes qu'on peut voir partout dès l'école primaire, et qui donc vont avoir une forme de repli qui est un repli identitaire et dont on voit les effets bien au-delà de l'école, en fait, partout dans notre société. Depuis au moins les années 2000, il y a eu un certain nombre de signaux dans la société entre Jean-Marie Le Pen au deuxième tour de l'élection présidentielle, les émeutes en banlieue.
Enfin, voilà. Et Marine Le Pen plus récemment, voilà, pour aller jusqu'au bout de votre idée. Donc l'idée de rupture, vous l'illustrez politiquement. Elle est très politique. Pour le dire autrement, est-ce que la méritocratie, l'idée d'une culture scolaire un petit peu exclusive et opaque, comme j'ai déjà dit, ça nourrit la défiance, David Guilbeault.
Oui, je pense complètement, parce qu'on peut parler de promesses trahies de la part du système scolaire, qui donc promet en amont aux élèves qu'ils vont être capables d'atteindre n'importe quelle position dans la société s'ils s'en donnent les moyens. Et évidemment, les élèves sont pas idiots, ils sentent très rapidement qu'en fait, bah, il y a un ensemble d'attentes implicites auxquelles ils répondent pas, qu'ils arrivent pas bien à saisir, qu'en fait, ils vont pas y arriver, que, entre guillemets, c'est pas pour eux. Et donc ça, évidemment, structurellement, ça génère du ressentiment, le sentiment que le jeu était biaisé, et que donc tout ça, ça vaut même pas la peine, et que, voilà. Et qu'ils trouveront jamais leur place dans la société.
Même question, Marie Durubella, méritocratie et défiance, quelle relation? Je rappelle que vous mettez à jour le mérite contre la justice
Mais disons que je pense que ce à quoi on assiste actuellement, c'est les limites du modèle méritocratique, qui est une logique de compétition. C'est ce qu'on appelle l'égalité des chances. Mais il y a une autre forme d'égalité qu'on oublie peut-être un petit peu, qui est l'égalité tout court, l'égalité des conditions, des places. Les gens voient bien qu'il y a des inégalités entre les positions sociales qui sont bien plus importantes que ce qu'ils peuvent soupçonner des inégalités qui découleraient du mérite. Donc, je crois que c'est cette obsession du mérite, de la compétition, qui d'ailleurs pervertit l'école, hein, elle amène à faire passer derrière, hein, l'égalité tout court. Il y a peut-être des choses auxquelles on a droit parce que simplement on est un être humain et qu'on a la chance d'être dans un pays riche, auxquelles on a droit inconditionnellement. Et c'est ça qu'on est peut-être en train d'oublier et qui révolte les gens.
Julien Netter, pour terminer, il y a donc urgence à expliciter les contenus scolaires et l'idée de culture. C'est ça le message que vous voulez porter? Parce que j'ai bien compris.
Ah oui, là, je crois qu'on a plus tellement de temps, en fait. Il y a vraiment urgence, oui, je crois.
David Guilbeault.
Non, pour rebondir sur l'idée d'égalité des places dont parlait Mario Rubella, il faut aussi se souvenir que nous, on est obsédés par l'idée d'égalité des chances et que même si on y arrivait pour une génération donnée à atteindre cette égalité des chances parfaite, tant que les inégalités entre les places sociales restent aussi fortes que ce qu'elles sont aujourd'hui, eh ben, cette égalité des chances, elle tombera dès la génération suivante. Et ça, il faut s'en souvenir.
Et la lutte des places, ça c'est sous la plume de François Dubé, autre sociologue de l'école. On va retrouver toutes les références à vos ouvrages sur le site de France Culture, à la page d'Être et Savoir, et également les références des archives que nous avons diffusées. C'est une page sur laquelle vous trouvez aussi notre podcast et le podcast de la rubrique qui suit, c'est la leçon de choses de Sophie Bobert. Merci, merci beaucoup à tous les trois d'avoir été avec nous ce soir. Tout de suite, donc, la leçon de choses. Et une très belle question pour cette leçon de choses. À quoi tient l'éveil de la conscience écologique? Vous savez, c'est bientôt la COP24, donc c'est pas mal d'en parler. On en parle avec Catherine Meurice, une dessinatrice qui, dans son dernier album, replonge dans le vert paradis de son enfance. Vert paradis, car c'est à la campagne, campagne belle, mais déjà un peu abîmée, qu'elle a grandi. Catherine Meurice a raconté cette enfance écolo à Sophie Bobert.
Moi, je suis née à Niort. On a passé quelques petites années dans la ville de Niort, dans une petite maison de ville. Et quand j'ai eu 7 ans, mes parents se sont dit bon, voilà, la ville, ça suffit. On va retrouver la campagne. Et ils avaient vraiment envie de nous offrir une éducation dans la nature, une éducation pas du tout. Enfin, on est allé à l'école tout à fait normalement. On n'a pas fait du tout l'école à la maison, mais. Il voulait qu'il y ait des cours naturels supplémentaires qui se passaient dans les prés, dans les champs. Et évidemment, nous, gamines, ma sœur et moi, on n'en était pas conscientes. On est juste passé d'une petite maison de ville à une maison immense, en ruine, un terrain immense et qu'il fallait investir, retaper. C'était un chantier. On a creusé des trous énormes pour planter des arbres. J'ai vu mes parents greffer des arbres, faire des boutures. Et j'ai observé ce travail-là. Et je sais que pour mes parents, il était important de les voir au travail. Ça, je sais que mon père me l'a souvent dit. Mes parents ne nous donnaient pas des cours, ne me donnaient pas des cours de jardinage dans le jardin. C'était pas du tout l'école à la maison, hein, l'école buissonnière à la maison. Mais ils savaient que j'observais. Et j'ai participé aussi, gamine, voilà. Voilà, je vais genre taper des murs avec mon père, c'est rigolo à faire.
Oui, vous écrivez, la campagne est une ludothèque qui s'ignore. Hein. C'est-à-dire que vos activités étaient réalisées intramuros, en fait. Vous sortiez assez peu. C'était un terrain de jeu.
C'était un terrain de jeu formidable quand je suis arrivée dans cette grande ferme. Ce qui m'a frappée au début, c'était la pierre. Ça, je le raconte dans la bande dessinée. J'ai pas vu tout de suite les arbres, la verdure. J'ai vu la pierre, la terre, la poussière. Avec ma sœur, on a farfouillé dans la terre très vite et dans les pierres. Et dans les pierres, on trouve des fossiles, on trouve des coquilles Saint-Jacques extraordinaires qui sont vieilles de plusieurs millions d'années. On trouve des fers à cheval. On trouve parfois un bijou qui a été laissé par une dame dans les années, alors on pouvait imaginer que c'était Mélusine, mais bon, je pense que c'était une dame qui avait paumé sa bague en laiton, je sais pas quoi, dans les années 50, mais tout nous faisait rêver. Et on trouvait ça dans les pierres, dans la terre, dans le fumier, dans la basse-cour, entre
ce qui vous a permis de créer un musée dans la maison avec votre sœur d'ailleurs.
Exactement, on a créé un petit musée comme Pierre Loti. Enfin, j'ai découvert plus tard que Pierre Loti avait fait exactement la même chose que nous à notre âge. Et j'ai adoré faire ça enfant, mais dans ce livre, je me pose la question, mais pourquoi est-ce que j'ai aimé ça? Qu'est-ce que c'est que cette nostalgie? En fin de compte, c'est celle de mes parents. J'explique dans la bande dessinée qu'eux-mêmes, enfants, ont eu un chagrin, ont vécu un déchirement, ce qui est évidemment la perte de la maison d'enfance. On est nombreux à connaître ça. Et ils avaient en eux ce chagrin-là et ils nous l'ont transmis sans faire attention. C'est comme ça en général. Les parents transmettent des choses inconsciemment à leurs enfants. Et j'ai aimé cette nostalgie. Je la regarde avec beaucoup de tendresse dans mon livre, mais je m'en détache aussi. Je prends mes distances avec elle en réalisant cette bande dessinée.
En nous plongeant dans la France des années 80, avec ses lotissements, ses monocultures, son utilisation intensive de Roundup. Mais vous, Catherine Meurice, comment avez-vous vécu ce décalage, peut-être, entre l'esprit éclairé de vos parents et ce qui était très à la mode à l'époque? Est-ce que vous le ressentiez, ce décalage?
Oui, je le ressentais et je l'ai vécu de manière assez comique parce que mes parents critiquaient beaucoup la défiguration de la campagne. Oui. Eux-mêmes l'avaient vu dans leur enfance. Hein,
ils râlent beaucoup.
Hein. Oui, ils râlent beaucoup, mais avec humour aussi. Et je crois qu'ils m'ont aidé à me forger un esprit critique. C'est pas pour rien après que j'ai atterri à Charlie Hebdo, je crois. Là, j'ai trouvé mon bonheur quand j'avais 20 ans. Mais je regardais ça avec horreur et avec amusement. C'est-à-dire que pour ne pas être complètement atterré, effondré par la connerie, par exemple, du remembrement, de l'épandage, etc. Parce que c'est quand même extrêmement violent de voir ça, de voir la campagne qui change, les champs qui sont verts, qui deviennent oranges et qui sentent la chimie, on se demande pourquoi. Enfin bon, je tournais ça en dérision et on tournait ça en dérision dans la famille et c'est ce qui nous a sauvés, je pense. C'est vraiment de faire des blagues sur la laideur. On y vivait très bien tout ce qui se passait à l'école, les sorties scolaires, etc. C'est juste que j'avais un esprit critique qui venait d'eux et que j'arrivais à voir ce qui pouvait clocher dans certaines sorties scolaires.
Type le Futuroscope.
Voilà, le Futuroscope, c'est beau, on va aller visiter l'avenir, c'est formidable. Le Futuroscope venait de sortir de terre, c'était ce feu Monory qu'il avait créé. C'était la modernité, Monory, bien sûr, hein, ça se lit sur son costume. Voilà, donc j'étais allée au Futuroscope, j'avais rêvé, sans doute, comme mes copains et copines, devant ces images incroyables. Et puis, en même temps, je m'étais un peu emmerdée, parce que on me proposait du rêve sur un plateau, puis non, ça marchait pas tant que ça, quoi. Je crois que j'aimais autant aller chercher ou créer du rêve moi-même en allant à la fois à l'école, écouter mes amis, regarder la nature, des arbres, etc. Mais j'avais pas besoin forcément d'un parc d'attractions. Disons que j'allais picorer à droite à gauche les choses qui pouvaient me constituer. Et voilà, les Futuroscopes, j'en ai fait quelque chose finalement. Puis ils se retrouvent dans la bande dessinée. Voilà.
Les grands espaces de Catherine Meurice vient donc de paraître chez Dargo. Et puis, je dois vous dire que David Guilbeault, qui était notre invité, est toujours à Radio France Fête le Livre. Il peut signer et discuter avec vous, cher public, de son ouvrage « L'illusion méritocratique » publié donc chez Odile Jacob. On parlait d'écologie avec Catherine Meurice. Sachez que dès demain sera la semaine spéciale environnement dans le cadre de la COP24 sur France Culture. Les chemins de la philosophie, la série documentaire Les Nuits et bien sûr le magazine de l'environnement d'Aurélie Luneau s'arrêteront sur ce sujet et sur cette COP. Et vous savez, Aurélie Luneau, c'est juste avant Être et Savoir à 16h tous les dimanches.